Europe 1, 14h-15h, Clap. Mathieu Charrier.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma depuis la Croisette aujourd'hui, puisque ça ne vous aura pas échappé. Le 74e Festival de Cannes s'est ouvert mardi dernier avec la projection d'Annette, le nouveau long métrage de Léo Scarrax. On y reviendra dans cette émission, puisque Marion Cotillard notamment répondra à notre questionnaire « Les films de ma vie ». Tiens, quelle est par exemple la plus belle scène de cinéma selon elle ?
La scène de fin du Dictateur. Moi, chez Chaplin, il y a beaucoup de scènes dans The Kid. Il y a des immenses scènes de cinéma entre lui et cet enfant. Les temps modernes, la scène de fin des temps modernes. Et toutes les scènes des temps modernes, en fait.
Voilà, donc rendez-vous dans une demi-heure pour découvrir la suite du questionnaire de Proust version cinéma de Marion Cotillard. Avant cela, je vous raconterai les plus grands scandales cannois. D'Hiroshima mon amour, à Lars von Trier, en passant par La Grande Bouffe, Sous le soleil de Satan ou Pulp Fiction. Récit agrémenté, bien sûr, des riches archives d'Europe 1. Et puis, à la fin de cette émission, j'accueillerai mes collègues critiques, toujours ici, depuis Cannes, pour débattre notamment des films cannois sortis en salle. Et vous pouvez donc aller découvrir. Alors, faut-il se précipiter voir Annette, justement, ou bien Benedetta, de Paul Verhoeven, avec Virginie Efira, en sœur homosexuelle dans un couvent du XVIIe siècle. On fera aussi un petit détour par Netflix pour parler de Comment je suis devenu super-héros, long métrage qui devait sortir en salle et qui arrive directement sur la plateforme. Enfin, on dira quelques mots des Croods numéro 2, nouveau long métrage des studios DreamWorks. Voilà pour le programme de votre Clap depuis la Croisette, émission que vous retrouvez d'ailleurs en podcast et qui démarre donc maintenant avec notre récit consacré au plus grand scandale cannois.
Europe 1, le récit.
Cannes, c'est bien sûr le glamour, les paillettes, qui s'affichent sur papier glacé pendant toute la durée du festival. Mais Cannes, c'est aussi son lot de scandales. Que serait la Croisette sans scandale ? Il faut rappeler au passage que le cinéma reflète la vie, et que la vie est bien souvent politique. C'est ainsi qu'en 1959, par exemple, 14e édition, on est en pleine guerre froide, et Alain René voit son film « Hiroshima, mon amour » retiré de la compétition. La raison, les Américains ont fait pression, estimant que le film est trop à charge. Ils dénoncent leur rôle dans le drame d'Hiroshima en août 1945. Alors oui, Hiroshima mon amour est bien présenté sur la Croisette, mais hors compétition.
Il faut éviter de penser à ces difficultés que présente le monde quelquefois. Sans ça, il deviendrait tout à fait irrespirable. Éloigne-toi de moi.
Le ciel n'est pas encore fleuri.
Il est probable que nous mourrons sans nous être jamais revus.
Il est probable, oui, sauf peut-être un jour, la guerre.
Autre scandale, toujours en lien avec la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, on le doit à Lars von Trier en 2004. Le réalisateur danois vient présenter Mélancolia avec Kirsten Dunst et Charlotte Gainsbourg. Lors de la conférence de presse du film, Lars von Trier avoue une certaine sympathie pour Adolf Hitler.
Je comprends Hitler. Je pense qu'il a fait de mauvaises choses, absolument. Mais je peux l'imaginer assis seul dans son bunker à la fin de sa vie. Je crois que je comprends l'homme. Il n'est pas ce que l'on appellerait un bon gars, mais je comprends beaucoup de lui et je sympathise un peu avec lui.
Des propos qui provoquent évidemment un tollé sur la Croisette. Le scandale est mondial et sur place, les spectateurs sont interloqués.
Je trouve que son mysticisme le pousse à l'excès et dans une certaine folie. Il n'y a rien à dire, c'est affreux, quoi. On ne peut pas dire de telles choses. C'est énorme.
Ah, il a fait fort, là. Ça pouvait choquer, effectivement, si on le prend au premier degré. Mais apparemment, je dis bien apparemment, c'était une plaisanterie de sa part.
Je pense qu'il a voulu choquer pour mettre la lumière sur son film. Je pense que c'est juste une provocation. Hitler n'a rien à voir là-dedans.
Alors chose rare, le festival réagit et sanctionne le réalisateur. Hors de question que l'image de Cannes puisse être salie.
Ça n'a pas traîné à Cannes. Le cinéaste Lars von Trier a été viré du festival.
Lars von Trier finira par s'excuser. Thierry Frémaux, le délégué général du festival, prendra la parole pour apaiser les choses. Et Kirsten Dunst sera même couronnée pour son rôle dans ce film, prix de la meilleure interprétation féminine.
Un film est une œuvre collective, donc il n'était pas question de devoir punir tous ceux qui, autour du film, avaient œuvré pour qu'il soit ici. La deuxième chose, c'est que Lars von Trier s'en est excusé. C'est pour ça que le film est laissé en commission à l'appréciation du jury qui décidera en toute souveraineté de le juger avec les 19 autres films en compétition.
Plus léger maintenant, Cannes ne serait rien sans son célèbre tapis rouge et ses 24 marches qu'il faut gravir pour accéder au palais des festivals. C'est devenu une vitrine du cinéma, mais aussi du glamour et de la mode. Les flashs des photographes crépitent et les stars se dandinent. Pourtant, en 1983, une montée des marches va surprendre tout le monde. Une certaine Isabelle Adjani est là pour présenter le film « L'été meurtrier » de Jean Becker.
Ça tient toujours votre invitation au restaurant ?
Quand vous voudrez.
Pourquoi pas maintenant ? Tout de suite. Vous savez ce qu'il va faire ?
Qui ?
Vous ! Il va faire le tour par derrière et il va choisir ce qu'elle doit mettre. Elle va lui montrer ses robes par la fenêtre. D'accord ?
Voilà pourquoi à la fin je pouvais plus me passer d'elle. Elle donnait à la vie des coups d'accélérateur comme je n'en connaissais pas.
Mais lorsqu'Adjani s'avance sur le tapis rouge, c'est le silence radio. Aucun crépitement d'appareil photo. Les photographes posent leurs appareils à leurs pieds et tournent le dos à la star. L'objet du litige, elle n'a pas voulu se rendre à la séance photo officielle quelques heures plus tôt pour dénoncer, selon elle, l'intrusion des photographes dans sa vie privée. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'au départ, Isabelle Adjani a beaucoup hésité avant d'accepter ce rôle dans L'été meurtrier.
J'étais très intimidée par le rôle et puis par tout ce qu'il y avait à faire. Je me disais, oh non, ça je pourrais pas, oh non, 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 prendre mon bain dans une cuisine, je ne pourrais pas faire ça. Enfin bon. Et puis en fait, j'ai écrit une lettre à Jean Becker en prétendant que j'avais relu le script et que définitivement c'était pas pour moi, ce que je n'avais pas fait. Et je l'ai emmené, je me suis tellement ennuyée que j'ai très très vite relu le script et je me suis dit, mais je suis folle, c'est génial, c'est formidable, il faut... Pour une fois qu'il y a un rôle aussi riche, aussi vivant à faire, je ne peux pas passer à côté. Et à ce moment-là, on a commencé une espèce de marathon téléphonique. Mmh. Et puis tout s'est arrangé. Donc,
et ça, c'est
je me suis retrouvée dans le Luberon, sous une chaleur torride, à tourner ça.
Alors le film repartira bredouille de la croisette, mais 5 millions de spectateurs iront le découvrir en salle. Toujours sur le tapis rouge, mais quelques années plus tard, c'est Sophie Marceau, autre star française découverte dès l'adolescence, qui va à son tour enflammer la croisette avec ce qui sera ensuite surnommé le Nipplegate. Alors qu'elle monte les marches, l'une des bretelles de sa robe glisse et laisse apercevoir son sein. Les images feront le tour du monde, certains criant même à la préméditation. Un accident qu'elle qualifiera elle-même d'émouvant quelques années plus tard. D'ailleurs, Sophie Marceau présente de nouveau sur la croisette cette année le nouveau film de François Ozon. Elle a toujours aimé Cannes, écoutez-la en parler alors qu'elle est encore adolescente en 1983.
Cannes, je veux dire, ça, c'est sympathique quand même, faut pas prendre que les côtés négatifs. Je veux dire, c'est sympathique parce que bon, c'est tout un folklore et puis bon, il fait beau et puis il y a du monde et puis on rencontre plein de gens, on voit de beaux films et tout, c'est très sympa. Ça n'arrive pas tous les jours, ce qui m'est arrivé à moi et je me rends compte que vraiment j'ai eu une chance et qu'il faut pas laisser partir cette chance, au contraire, faut essayer de la préserver en la travaillant et en venant à Cannes pour.
Alors Cannes a lancé la carrière de beaucoup de réalisateurs et de nombreux films, mais parfois c'est aussi un endroit redoutable, car des milliers de journalistes du monde entier couvrent l'événement et critiquent les films. L'exemple le plus célèbre, c'est sans doute celui de la grande bouffe qui hante encore la croisette 48 ans après, l'histoire de quatre hommes qui décident de se suicider en mangeant.
Mais fais un effort, Michel. C'est une question de volonté. Je pense que tu es un Indien. À Bombay, un petit Indien, et que tu as faim. Et que tu as très faim. Si, tu as très faim, alors qu'est-ce que tu fais? Tu manges.
Si tu ne manges pas, tu ne vas pas mourir.
Le réalisateur Marco Ferreri explique vouloir dénoncer la société de consommation, mais certains critiques et spectateurs sont très choqués par les scènes scatologiques, notamment.
Que pensez-vous de ce film? Il vaut mieux pas penser.
Tu m'as au cœur.
Non, c'est très bien. Très intéressant, mais très difficile à traiter et je crois qu'il y a réussi.
Celui qui a le cœur sensible, ça va pas y aller.
Oh non, c'est écœurant. Trop long, bien joué, mais assez vulgaire.
Pas trop fameux, hein.
Ça sort de l'ordinaire.
L'équipe du film, composée de Philippe Noiret, de Michel Piccoli et de Marcello Mastroianni au bras de Catherine Deneuve, essaie de rester digne à la sortie de la salle, sous les huées, mais l'événement marquera Cannes à jamais. Une chose est sûre, Cannes déchaîne les passions et parfois c'est carrément le palmarès attribué par le jury qui suscite la colère. C'est ainsi qu'en 1987, la Palme d'Or est attribuée à Maurice Pialat pour son film « Sous le soleil de Satan », l'histoire d'une jeune femme, c'est Sandrine Bonner, qui tue son amant. Le meurtre passe pour un suicide jusqu'au jour où elle ressent le besoin de se confier à un abbé, joué par Gérard Depardieu.
Satan est prince de ce monde. Il l'a dans ses mains. Il est là, vainqueur. Je vous dis que nous tous sommes vaincus. Vaincus. Quel blasphème. Mais rien n'est impossible ni incroyable pour des hommes tels que vous. Je vous suis. C'est Dieu qui vous inspirait tout à l'heure. Allons rendre le petit mort à sa mère.
Les projections sur la croisette se sont très mal passées et Maurice Pialat est déjà très en colère.
Il arrive un moment où il y en a assez. Moi, ça fait 20 ans qu'on me chie dessus. J'ai pas peur de dire chier parce que c'est vulgaire, donc j'emploie le mot qui correspond à ce que c'est. Et ça fait déjà un bon moment que j'en ai absolument marre. Mais je pense qu'il faut aussi parler. J'ai de quoi fermer le claque-merde à beaucoup de gens.
Gérard Depardieu aussi s'exprime au micro d'Europe 1 après la toute première projection.
On a été cueillis à froid comme ça. Ça fait du mal à Maurice. Moi, je suis moins impliqué. Je suis simplement l'abbé de licence. C'est encore une fois un acteur. Mais Maurice est quand même aussi il a choisi Bernanos. Et c'est vrai que ça fait plus de mal que de bien. Mais j'avais peur. Moi, j'ai toujours peur des réactions de Maurice et c'est peut-être un tort.
Sauf que, le soir du palmarès, c'est Maurice Pialat qui triomphe. Palme d'or, accueilli sous les sifflets. Michel Pascal est sur place pour Europe 1.
Sous le soleil de Satan était de loin le plus attendu des quatre films de la sélection française. Les choses se sont mal engagées avec une projection de presse un peu chahutée où quelques sifflets rageurs ont dominé de timides applaudissements. Mais le monument de Maurice Pialat impose le respect et force l'admiration sans qu'on ait envie de grimper sur sa chaise en battant des mains. Sous le soleil de Satan est une œuvre forte et inspirée qui bouleverse en profondeur en opposant le saint abbé Denisant et la petite pécheresse de 16 ans qui se jette dans la mort comme dans le plaisir.
Et quelques années plus tard, Sous le soleil de Satan sera finalement considéré comme un chef-d'œuvre. Autre film devenu culte et qui a été hué par une partie du public au moment de sa Palme d'Or, un film américain cette fois, si je vous donne cet indice. Fiction, évidemment, deuxième film du réalisateur Quentin Tarantino, âgé alors de seulement 31 ans. Le jury, cette année-là, est présidé par Clint Eastwood et le jeune cinéaste coiffe au poteau des réalisateurs plus expérimentés, comme Nanni Moretti ou encore Patrice Chéreau, venu présenter La Reine Margot. L'accueil du public est assez mitigé. Une personne dans l'assistance crie même que c'est une daube, ce à quoi Tarantino répondra par un célèbre doigt d'honneur. Pulp Fiction sera un succès en salle et deviendra même un des films cultes de ces 30 dernières années.
Vincent, regarde la taille de ce flingue. Il est plus gros que le bonhomme. On devrait être mort, mon pote.
Ouais, on a eu du bol.
Non, ça n'a rien à voir avec le bol. Ça, c'est une intervention divine.
Le bon Dieu aurait arrêté les balles lui-même, si je comprends bien.
Oui, ça s'est passé exactement comme ça. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles.
Tu souhaites continuer cette intéressante discussion théologique dans la bagnole ou en tôle avec les matons?
On a vécu un truc miraculeux et moi je demande que tu le reconnaisses.
D'accord, c'est miraculeux. Alors on s'en va?
Le rôle principal était tenu par un certain John Travolta au micro d'Europe 1, en français s'il vous plaît.
Je suis heureux, très heureux, pour mes amis, pour mon film Pulp Fiction. Je suis surpris.
Alors on verra lors de cette quinzaine si un nouveau scandale éclate ou lors de la clôture samedi soir prochain. J'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on sera en direct pour vous la faire vivre en partenariat avec Canal+. Mais dans un instant, on reste à Cannes avec Marion Cotillard pour notre séquence Les films de ma vie. L'actrice à l'affiche d'Annette de Léo Scarrax a accepté de nous raconter ses plus grands souvenirs de cinéma. Annette qui est une comédie musicale dont on va écouter la bande originale. Elle est signée des Sparks, mythique duo californien. So May We Start. Vous êtes à l'écoute de Clap depuis la croisette sur Europe 1.
So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May We Start, extrait de la bande originale du film Annette de Léos Carax, comédie musicale présentée ici sur La Croisette. On revient à Cannes dans un tout petit instant pour aller à la rencontre de Marion Cotillard qui répondra à notre questionnaire Les films de ma vie. Restez à l'écoute.
Europe 1.
Et je suis maintenant en compagnie de Marion Cotillard. Bonjour.
Et bonjour.
Merci d'être là à l'occasion de la sortie du film Annette, signé Léos Carax, qui a aussi fait l'ouverture du Festival de Cannes, qui est en salle, je le redis pour que nos auditeurs aillent le découvrir. Alors, d'habitude, je fais un résumé. C'est un film tellement dur à résumer. On va dire une sorte de grand opéra rock qui brasse des thèmes comme la société du spectacle, la tyrannie du rire, la condition des femmes, tout ce qu'on met aussi dans nos enfants, et notamment tout ce qu'on projette dans nos enfants. Vous, c'est parmi tout ça, je dirais, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce film et qu'est-ce qui vous a le plus touché ?
Alors, il y a un thème sous-jacent, je pense, qui est le besoin de reconnaissance. Et quand on y est confronté à la reconnaissance ou à la non-reconnaissance, ce que ça déclenche en nous de constructeur ou de destructeur. Et ça a beaucoup résonné en moi.
Parce que vous et Adam Driver, vous êtes tous les deux des stars, dans, chacun dans votre domaine, et il y en a un pour qui ça va aller de mieux en mieux, c'est vous. Et pendant que l'autre commence à sombrer...
Donc nos personnages.
Nos personnages. Voilà.
Parce que je pense que ça va très
ça
bien
va pour Adam Driver,
Adam
oui.
Driver en ce moment. Mais... oui, effectivement, dans un couple, il y a cette même pathologie, je dirais presque, d'un besoin de reconnaissance maladif. À quel point ça peut être destructeur quand effectivement quelqu'un est en ascension et quelqu'un est plutôt sur la pente descendante.
Annette, qui est donc en salle, je le redis, et peut-être au palmarès, on verra ça dans quelques jours. Est-ce que vous êtes prête maintenant pour que je vous pose quelques questions de notre questionnaire Les films de ma vie?
Posez-moi.
Votre premier souvenir de cinéma?
E.T.
Tout simplement.
Oui. J'en garde un souvenir très très fort parce que j'étais une enfant extrêmement sensible et que pour moi c'était presque pas du cinéma. J'ai vécu très fortement tous les moments de ce film et tous les moments dramatiques m'ont poussé à m'exprimer de manière très dérangeante pour les spectateurs qui étaient autour.
Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille,
un mystère se révèle et une aventure commence.
Je veux le garder avec moi.
Le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Maison, téléphone.
Téléphone à sa maison.
Et vous le revoyez régulièrement ou ça reste ?
Je le revois, ouais. Je le revois. C'est un film qui a été très marquant pour moi.
E.T. l'extraterrestre.
Je suis toujours là.
Le film qui vous fait le plus rire, Marion Cotillard ?
Je connais pas le titre en français.
En anglais.
Mais Step Brothers, frère malgré eux, ça doit être un truc comme ça. J'ai une passion pour Will Ferrell et John C. Reilly. Donc déjà eux me font rire, notamment Will Ferrell dont j'ai dû voir tous les films et même au-delà. C'est un humour qui me touche particulièrement. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais j'aime cet humour qu'on peut qualifier de gras parfois, mais que moi je trouve extrêmement subtil aussi.
Lorsque Robert et Nancy sont devenus mari et femme, leurs enfants sont devenus frangins malgré eux.
Salut.
Salut.
À présent...
Les garçons, vous allez devoir dormir ensemble. Juste le temps de trouver un travail et de disparaître.
Ils vivent côte à côte.
T'es réveillé ?
Ouais.
Je déteste ton odeur.
Je vais t'éclater la tronche.
Je vais te tuer !
En faisant de leur mieux pour s'entendre.
Aidez-moi !
Ça y est, je crois qu'ils s'adorent.
Mais qu'est-ce que tu fous ?
Eh ben, je t'enterre.
Mais je suis encore en vie, du con !
Tu vas réveiller les voisins.
Ta gueule !
Le film qui vous fait le plus pleurer ?
Alors, le premier film qui m'a fait le plus pleurer, c'était Elephant Man. Et un des films qui m'a fait le plus pleurer, c'est Alabama Monroe. Je ne le reverrai jamais.
Vous voulez pas ?
Ça m'a trop bouleversée. Mais c'est un des films qu'un des plus grands films que j'ai vus de ma vie.
America was founded on the principle by returning this bill to Congress with my veto.
Putain, ils nous rebattent les oreilles pendant je ne sais combien de mois avec les cellules souches. Et pendant des mois, tu sais pas pourquoi, t'as l'impression que la recherche avance pas, qu'il y a un frein derrière, c'est un peu bizarre. Et à petit feu, pendant ce temps-là, ton gosse crève. Et là, t'entends que depuis des années, tout est freiné par cette bande de pauvres connards avec leur ridicule principe religieux.
Didier, c'est l'Amérique, ça.
La plus belle scène de cinéma, selon vous ?
La plus belle scène de cinéma.
C'est vaste.
Waouh ! Ouais. La scène de fin du dictateur.
Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur. Ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Juifs, chrétiens, païens, blancs et noirs. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Dans ce monde, chacun de nous a sa place et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres humains. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre. Mais nous l'avons oubliée.
Moi, chez Chaplin, il y a beaucoup de scènes dans The Kid. Il y a des immenses scènes de cinéma entre lui et cet enfant. Les temps modernes, la scène de fin des temps modernes. Les temps modernes, toutes les scènes des temps modernes, en fait. Si je continue à réfléchir, il y a tellement de grandes scènes de cinéma que. Mais voilà, je pense que.
Déjà, c'est pas mal, vous en avez listé pas mal.
Ouais.
Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où la science et le progrès mèneront tous les hommes vers le bonheur. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous!
Est-ce qu'il y a un film que vous aimez mais vous avez honte de l'avouer ?
Non. Franchement, j'ai pas du tout honte. Même, j'oserais même pas... En fait, j'aurais plutôt honte de donner un titre pour répondre à cette question.
En disant, oui, c'est ça.
Voilà.
C'est le piège d'ailleurs, parce que souvent on me répond, ça, je devrais avoir honte, mais je n'ai pas honte.
Ouais, non.
Le film que vous conseilleriez à votre meilleur ami ?
Hedwig and the Angry Inch.
fois.
De John Cameron Mitchell, parce que c'est un de mes films préférés au monde.
Et à votre pire ennemi ?
J'ai pas de pire ennemi.
Oh, on m'a jamais répondu ça.
Bah non, mais ouais. J'ai pas de pire ennemi. Bah non.
Est-ce qu'il y a un film culte que vous n'avez jamais vu ? Ce film, oui, dont parfois oui. On a le DVD qui traîne et on le regarde jamais.
Ah mais si, je l'ai vu en plus. Non, pendant très longtemps, j'avais pas vu The Rocky Horror Picture Show, mais j'ai fini par voir. Quel film culte j'aurais pas vu ? Je sais pas, dites-moi un film culte, par exemple.
Il y en a plein. C'est plus souvent pour faire appel à ce film dont on se dit, faut que je le regarde. En fait, on le regarde jamais.
Ouais, alors écoute, non. Il n'y en a pas un qui me vient à l'esprit.
Bon, et pour finir, puisque Annette, c'est un grand opéra rock, je vais vous demander la bande originale qui a le plus marqué votre vie.
Alors, il y a une bande originale d'un spectacle qui s'appelle Dérive, ce qui est un spectacle de marionnettes. La bande originale de Casino, la bande originale du mariage de mon meilleur ami.
On a compris que Marion Cotillard a du mal à choisir et répond plein de réponses à chacune.
Mais c'est hyper difficile de choisir. Moi, j'aime la musique passionnément, donc et le cinéma. Donc, si vous me demandez de choisir une chose, et en plus, c'est vrai que j'ai quand même du mal à choisir.
Yeah. merci beaucoup en tout cas d'avoir joué le jeu. Et donc je rappelle à nos auditeurs, Annette de Léos Carax qui a fait l'ouverture ici à Cannes, qui est en salle. Et peut-être au palmarès, on verra ça le week-end prochain. Merci beaucoup Marion Cotillard.
Merci à vous.
Et nous on se retrouve dans un instant pour la suite de l'émission, toujours depuis Cannes. On va débattre justement de tous les films cannois vus cette semaine, et notamment ceux qui sortent en salle. À tout de suite.
Clap. Mathieu Charrier fait son cinéma sur Europe 1.
Et nous sommes toujours à Cannes pour vous faire vivre ce 74e festival. J'accueille maintenant nos critiques, tout bronzés mais pas encore tout nus. Marilyn Letertre de Madame Figaro, Thierry Chaise de Première.
Quelle forme!
Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour Mathieu.
On va donc débattre aujourd'hui d'Annette, de Benedetta aussi qui est en compétition avec Virginie Efira. Et on prendra un petit peu de distance par rapport à Cannes pour parler des Croods numéro 2 et de Comment je suis devenu super-héros. C'est sur Netflix. Mais d'abord donc Annette qui a fait l'ouverture ici à Cannes mardi soir dernier, le grand retour de Léos Carax avec Adam Driver et Marion Cotillard 9 ans après Holy Motors.
First time I fell in love, woke up next to the girl and escaped fast and far. It's a little more puzzling.
Alors vous entendez la petite musique derrière, puisque ce sont les Sparks, mythique groupe californien d'électropop, qui ont proposé à Léos Carax en fait de réaliser cette comédie musicale. Il raconte l'histoire d'un couple de stars et de leur petite fille, Annette, douée de talents exceptionnels. Lui est humoriste, elle cantatrice, la carrière du premier décline, celle de la seconde explose. Et au milieu, vous avez donc cette petite fille, cette jeune Annette, représentée comme une sorte de poupée à l'écran, on va sans doute y revenir, et qui symbolise à quel point l'enfant reste bien souvent le pantin de ses parents. Film qui parle aussi de la tyrannie du rire, jusqu'où aller pour divertir, pour être reconnu. Le film est donc sorti en salle dès mardi soir dernier. Qu'en avez-vous pensé?
C'est un des plus beaux films français de ces dernières années.
C'est assez virtuose, on voit vraiment le côté fabriqué du film et tout.
J'ai adoré la mise en scène, l'image est sublime, c'est hyper beau et ça parle d'amour.
Mitigé.
Marion Cotillard, je ne suis pas très fan.
L'acteur Adam Driver, top.
Ce qui m'a touché, c'est sa faiblesse à lui.
Je ne m'attendais pas en fait, à aimer parce que j'avais détesté Holy Motors.
Je trouvais le début absolument emballant. Il y a eu des moments un peu de longueur. Et la fin était vraiment très très émouvante aussi.
Et un beau moment à la fin avec la fille. Ça, c'était superbe. Et peut-être un petit peu long.
Une grande émotion pour moi. C'est, je pense, le meilleur de Léos Carax.
Marion Cotillard n'a jamais été aussi bien, aussi belle, aussi séduisante, aussi fine. Vraiment, c'est une merveille. Bravo Léos Carax.
Bon, un public pour le moins convaincu et emballé. Je pensais pas que le public allait autant mieux, parce qu'il faut quand même préciser, voilà, c'est du Léos Carax et c'est un film qui n'est pas forcément très abordable dès les premières minutes. Marilyn.
Moi, je trouve que c'est son film le plus accessible.
Oui,
c'est sans doute pour ça que le public a adhéré cette fois. Je suis assez d'accord avec les gens dans l'ensemble. Moi, je suis très emballée par le film, mais je trouve effectivement qu'il y a un petit ventre mou au milieu. Le début, alors ça part sur les chapeaux de roue avec une scène d'ouverture anthologique qui pour moi est sans doute la plus belle scène du film d'ailleurs. La fin est géniale aussi parce qu'en fait ça fait sens dans la personnification de la fillette. Les gens comprendront effectivement quand ils verront le film parce que j'ai pas envie de tout spoiler, mais voilà. Les chansons des Sparks sont dingues, c'est virtuose. Il y a une idée de mise en scène à chaque plan. Marion Cotillard et Adam Driver sont formidables. Effectivement, ça pose énormément de questions sur la célébrité, comment la gérer quand elle est pas au même niveau dans un couple. Comment est-ce qu'effectivement on fait de son enfant parfois son instrument pour se venger ou en tout cas pour arriver à ses fins. Voilà, donc c'est un film quand même un grand film de cinéma, comme on dit, sans vouloir rentrer dans la caricature. Et moi, ça m'a beaucoup plu et je trouve que Marion Cotillard et Adam Driver sont très très bien, surtout lui qui effectivement embrasse le côté obscur, un côté qu'il connaît très très bien, puisque si les gens ne l'ont pas encore remis, c'est Kylo Ren dans Star Wars.
Thierry, cette Annette.
Oui, c'est en effet le plus accessible des films de Carax. Moi, je dois avouer que j'ai toujours un problème accessible avec le cinéma de Carax. Je trouve ça magnifique. Je trouve la mise en scène incroyable. Et alors, je suis à 10 000 lieues de tout ce qui se passe, donc de toute émotion. Je vois là où, en effet, je dois être ému. C'est vraiment indiqué, en gros, ça clignote. Mais je suis emballé par la mise en scène. Donc vraiment, c'est quelque chose que je regarde plus avec mon cerveau qu'avec mon cœur ou mes yeux.
Après, je suis d'accord.
Voilà. Après, je trouve qu'Adam Driver, eh bien, si on l'a déjà vu jouer, on dit, bon, ça se voit qu'il est coproducteur du film parce que, voilà, quatre fois les mêmes trucs. On a compris la première fois sur le stand-up.
C'est le petit ventre mou, hein,
ouais,
du film,
mais parce que je pense qu'on peut enlever quelques scènes de stand-up. Et par contre, alors, celle qui m'a apporté, moi, un peu d'émotion, c'est Marion Cotillard, qui arrive dans ce cadre-là, un peu, à faire passer un peu de vie dans quelque chose qui est très... Okay, donc, est-ce que ça avait sa place à Cannes? Mais un milliard de fois. Mais voilà, je ne suis pas plus convaincu en sortant de ce Carax qu'en y entrant sur mon rapport à Carax.
On a peut-être oublié de préciser quand même aux gens qui écoutent que c'est une comédie musicale intégralement chantée.
95%,
je crois. Donc, il faut quand même que les gens le sachent, parce que s'ils sont un peu allergiques au genre, n'y allez pas.
Et chantée en live, c'est-à-dire que ce n'était pas enregistré en studio, c'était tourné, chanté, et c'est tout aussi une performance qu'il faut souligner. Bon, on peut quand même le conseiller. Oui. C'est aussi une belle porte d'entrée vers le cinéma de Léos Carax, parce que c'est sans doute, vous le disiez, l'un de ses films les plus accessibles. Et donc, pour ceux qui auraient un petit peu peur de cet univers-là, ils peuvent aller découvrir Annette, qui est donc en salle, qui a fait l'ouverture ici à Cannes. Et on verra le week-end prochain s'il est au palmarès. On reste sur la croisette avec la présentation de Benedetta, nouveau film de Paul Verhoeven, avec au casting notamment Virginie Efira.
J'ai vu Jésus. Il est venu à moi.
Jésus-Christ a choisi notre bienheureuse sœur, Benedetta.
Bartoloméa a-t-elle fait quelque chose qui vous est fâché ? Non. Avez-vous de l'affection ?
Ouais. Si cette sœur est coupable du blasphème dont vous l'accusez, elle est rebutée.
Peut-être a-t-il mis Benedetta en transe ? Ou bien Dieu nous a envoyé une folle qui débite des sottises pour servir ses desseins.
Alors je vais essayer de résumer ce film dans lequel il y a quand même beaucoup de choses, peut-être trop, vous me direz ce que vous en pensez. On est donc dans un couvent italien du XVIIe siècle. Sœur Benedetta, c'est Virginie Efira, y est entrée à son plus jeune âge. Elle se dit possédée par le Christ, ce qui donne d'ailleurs des scènes pour le moins marquantes. Elle est donc aussi adulée que crainte au sein de la communauté, sur le point d'être béatifiée, mais c'était sans compter sur l'arrivée de sœur Bartoloméa, avec laquelle, on peut le dire puisque c'est dans tous les résumés, sœur Benedetta va avoir une liaison. La grande mère, comme on dit, de toutes, jouée par une incroyable Charlotte Rampling, va s'en servir pour tenter de la faire tomber, alors qu'aux portes du couvent, la peste menace. Thierry Chaise.
Moi, ça m'a emballé. Alors, ça m'a emballé. J'avais peur, je me suis dit, voilà, Paul Verhoeven, à l'âge qu'il a, et est-ce que ça va pas être le film d'un vieux monsieur qui autrefois a été provocateur. Alors, c'est moins provocateur que ces films des années 80, évidemment.
C'est un peu faussement provocateur, parfois,
oui,
non ?
Oui, mais c'est ludique. Oui. Et c'est ça qui est fort, c'est ludique. C'est-à-dire qu'il joue lui-même, je pense, avec sa réputation. Et du coup, ça passe. J'imagine mal, d'un seul coup, il y a des gens qui soient devant les cinémas demandant à Italia Benedetta. Je trouve qu'il y a cette capacité, notamment avec le personnage de Virginie Efira, on ne sait plus bien qui manipule qui, et je trouve ça très réussi, qui a vraiment des moments jouissifs, à la fois comiques, et puis dans toutes ces scènes, un peu à façon l'exorciste, jouer vraiment à fond. Et puis c'est un formidable directeur d'acteur. Moi, Virginie Efira, je la trouve impressionnante. Vous l'avez dit, Charlotte Rampling. On la voit rarement de nos jours dans des rôles comme ça. Mais Lambert Wilson, moi je ne suis pas toujours fan, mais là je trouve qu'il est dingue. On peut citer Daphné Patakia aussi. Voilà, moi j'ai été conquis, amusé, emporté.
Eh bien, Marilyn, même avis ou un peu plus mitigé ?
Exactement le même avis, Thierry. Je trouve ça hyper malin.
Ouais.
En fait, je pense que c'est vraiment le mot qui résume Paul Verhoeven. Alors effectivement, il pousse le bouchon très, 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 très loin. Des fois, on se dit, oh, quand même, il exagère. Mais c'est drôle. En fait, c'est drôle. Et arriver à injecter de l'humour dans ce contexte-là, effectivement, vous avez très bien résumé le film, qui est pourtant extrêmement difficile à résumer. Mais ça brasse plein de thématiques aussi, la place de la femme et comment la femme s'empare du pouvoir dans un monde excessivement patriarcal et donc très très macho. Donc ça, c'est très très drôle. En plus, c'est fait extrêmement finement. Virginie Efira, faut quand même le dire, a un rôle hyper casse-gueule. Bon, déjà, c'est un rôle très charnel, donc faut y aller, faut assumer. Et même chose pour Daphné Patakia, qui est une jeune actrice, qu'aux y aller. Et on sent le regard de Verhoeven qui est hyper bienveillant sur elle. Et puis, au-delà du côté charnel, effectivement, quand elle est possédée, je vais le dire comme ça, il faut y aller, quoi. Et elle y va très bien. Et elle est excellente. Et pour moi, ça peut être une des candidates au prix d'interprétation. Voilà. Et moi, je me suis vraiment amusée devant ce film. Je trouve qu'il se fait plaisir, mais sans oublier le spectateur.
Est-ce que parfois, ça ne va pas un peu loin ?
Mais c'est drôle.
Ça fait partie du jeu.
Bon. Ouais.
Moi, je pense. Ça fait partie du jeu et ça le rend accessible aussi. Alors que le résumé que vous avez fait peut un moment mettre à distance et vraiment, allez-y, vous allez jouer avec lui.
Et c'est vrai que forcément, ça trouve plein de résonance. Vous parlez du patriarcat, la peste qui est aux portes. On ne peut pas s'empêcher de penser, évidemment, au Covid. Enfin, voilà. C'est vrai que c'est un film qui a été terminé, je crois, il y a 2 ou 3 ans et qui est d'une actualité brûlante. Ça s'appelle donc Benedetta. C'est signé Paul Verhoeven. On a aussi parlé d'Annette. On va prendre un tout petit peu de distance. Ça, c'est les deux films qui sont sortis cette semaine et qu'on a découvert à Cannes. On va prendre un tout petit peu de distance par rapport à La Croisette, parce que je voulais aussi qu'on parle des Croods numéro 2, nouveau film des studios DreamWorks en salle depuis mercredi.
Je m'appelle Hip. Encore 5 minutes. On est la première famille du monde. Les Croods. On cherche l'endroit idéal pour s'installer. Nous sommes les Betterman.
Les Betterman?
Autrement dit, les meilleurs.
Oh, oh, c'est là que j'habitais.
C'est spacieux.
Je ne sais pas si les hommes des cavernes ont leur place dans le monde moderne.
T'as pas le droit de sortir?
Bah non.
Alors cette ferme, c'est un peu ta caverne, quoi. T'es comme moi.
Tu vois ce mur?
Oui.
Tu veux sauter par-dessus?
Oui.
Ah, on sera rentrés avant qu'ils s'en aperçoivent.
8 ans donc après les Croods numéro 1, la famille préhistorique repart pour de nouvelles aventures car ils ont besoin, figurez-vous, d'un nouvel endroit pour habiter. Les voilà donc en route à la recherche de cet endroit. Ils débarquent dans une sorte de mini-paradis protégé de murs, qui plus est, ils sont bien à l'abri. Ils se disent ça y est, on est en sécurité, sauf que... patatras, une autre famille vit déjà là, les Betterman, qui eux sont beaucoup plus évolués que les Croods. Ils ont déjà construit des cabanes dans les arbres, mis en place des systèmes d'irrigation, etc., etc. Et pour cause, je vous le disais, ils sont beaucoup plus modernes, sauf que les deux familles vont devoir s'allier pour affronter une menace que je ne vous dévoilerai pas. Alors le film est sorti en salle, qu'en avez-vous pensé?
C'était quand même un peu long.
C'était super, c'était très drôle, c'était bien aussi pour les adultes, très joli, une histoire chouette.
Très bien. Parfois c'était un peu rigolo.
Je trouve encore mieux que le premier, beaucoup d'humour, les couleurs extraordinaires.
Il y a quelque chose qui t'a plu?
Oui.
Qu'est-ce qui t'a plu, Lou?
Je sais plus.
Tu sais plus?
Bah, j'ai adoré ce film. Les personnages étaient très rigolos. Les monstres, étaient bizarres.
Ce qui m'a plu, c'est la fin. Quand on vivait tous ensemble.
J'avoue, moi, c'est pas trop mon truc, en fait. Je préfère les Pixar ou DreamWorks.
Il y a autant d'humour pour les grands que pour les petits. Toute la famille peut comprendre et c'est génial. À voir, absolument.
Ah, la micro-trotte, intéressant, parce qu'on entend des enfants intéressés. On entend ce monsieur qui dit « je préfère Pixar ou DreamWorks ». C'est un DreamWorks. Et peut-être que, justement, ça s'éloigne un peu de l'univers DreamWorks. Marilyn.
Eh ben moi aussi, je préfère les Pixar et les vrais DreamWorks, les anciens DreamWorks. C'est pas désagréable, non. On va pas se mentir. C'est un peu rigolo, comme a dit un petit garçon, je crois. Je suis assez d'accord, c'est un peu rigolo. Voilà. Mais le procédé, finalement, est quasiment le même que sur le premier, puisque c'est la modernité face à l'ancien monde. Et c'était ça déjà avec la rencontre du jeune fiancé dans le premier. Là, c'est la rencontre avec une nouvelle famille, donc les... hommes meilleurs, les Betterman. Voilà, mais bon, une fois qu'on a dit ça, voilà, c'est coloré, ça va vite, il y a du rythme, il n'y a pas de second niveau de lecture pour les adultes. Donc, on le regarde, on l'oublie assez vite. D'ailleurs, pour être totalement transparente, je l'ai complètement oublié. Et puis, on passe à autre chose.
Heureusement que Thierry, lui, ne l'a pas oublié. Ouais. C'est Croods numéro 2.
Non, mais c'est dur de ne pas l'oublier. Non, mais pourtant, c'est la consommation rapide. Les créateurs ne sont plus là, en plus. C'est quelqu'un qui... Voilà, c'est son premier long. Il était storyboarder sur les Kung Fu Panda, mais... On a vraiment l'impression d'un film de commande de A à Z.
Mais avec tous les ingrédients qu'il faut. Hein,
c'est pas désagréable.
Oui, enfin, c'est quand même c'est le service minimum attendu. Je veux dire, quand vous allez dans une... C'est comme un service de restauration rapide. On attend au moins qu'il y a à manger. Quoi. Bon, voilà. Il y a à manger.
Il y a des frites, quoi.
Il y a des frites. Ça aurait été mieux assaisonné ailleurs. Elles sont cuites, au moins. Voilà, c'est ça. Des frites cuites. Avec un peu de sel. Non, mais c'est vraiment le monde... la préhistoire d'en haut, la préhistoire d'en bas... On devine à peu près, comme adulte, vraiment, on s'ennuie à 100 sous de l'heure. Donc bon, après, on peut se sacrifier, évidemment, pour les enfants.
Ces enfants ou ces petits-enfants qui ont eu l'air d'apprécier, en tout cas, dans le micro-trottoir.
Rendez-nous DreamWorks.
Bon, OK, les Croods numéro 2. Et on va terminer, là aussi, en dehors de la croisette. On va carrément prendre la direction de Netflix, parce que c'est un événement, la sortie de Comment je suis devenu super-héros, qui était d'ailleurs initialement prévu en salle. C'est donc sur Netflix depuis hier, avec Pio Marmaille, Leila Bekti ou encore Benoît Poulvorde.
Les héros, ça n'existe pas. Avec des losers. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. Ça se prend.
C'est vrai cette histoire de drogue qui donne des super pouvoirs?
Tu pourrais identifier quelqu'un à partir de ses pouvoirs?
Mathias Najarovski, il a 35 ans. Il se fait appeler Naja.
Arrête! S'il te plaît! J'ai un truc pour toi! J'ai un mec qui a des pouvoirs! Il a fait flotter une meuf dans les airs.
Trouvez-le.
On est donc dans un film de super-héros français, avec des super-héros qui ont parfois un peu de mal à contrôler leur pouvoir, lévitation, main lance-flamme, possibilité de prédire l'avenir. On est à Paris, dans un Paris qui ressemble finalement à celui d'aujourd'hui, mais où les super-héros font partie du quotidien. Ils sont même plutôt marginalisés depuis que le PAC Royal, c'est-à-dire l'équipe de choc, une sorte d'Avengers français, ont été dissous. Sauf que le lieutenant Moreau, qui est donc joué par Pio Marmaille, assez arrogant, doit bien le dire, doit enquêter sur un mystérieux produit qui donnerait du pouvoir à ceux qui n'en ont pas. La jeunesse y est addicte.
Alors Moreau va réactiver ses vieux contacts chez les super-héros, notamment Monte Carlo, c'est un Benoît Poulvord qui mérite d'être vu, je trouve, parce que c'est vraiment le super-héros vieillissant. Et ensemble, ils vont enquêter Marilyn.
Eh bien, moi, j'ai trouvé que c'était une excellente surprise. Et par contre, vous disiez qu'il avait un personnage un peu arrogant. Ce n'est pas le mot que j'aurais utilisé. J'aurais dit blasé.
Bon, plutôt. Blasé.
Un peu à la Mel Gibson dans L'Arme fatale.
Ah, carrément.
Ouais. Et je trouve qu'en fait, Pio Marmaille, il a ce truc-là. Déjà, il est éminemment sympathique. Bon, il peut tout jouer. Moi, je le trouve très, très bon acteur. Et donc, on passe toujours un bon moment, je trouve, quand il est à l'écran et effectivement face à Benoît Poulvord dans ce film. Et je trouve le film excessivement malin parce que ça reste un film français, donc avec un budget français et pas un budget de film de super-héros américain. Et ils en jouent très, très finement. Il n'y a pas de surenchère d'effets spéciaux. Il y a deux, trois petits effets, mais qui sont déjà plutôt bien foutu et sans en faire trop. Et puis, il y a une, je pense qu'il y a un avenir possible pour Comment je suis devenue super-héros. Ça sent un peu le premier volet d'une potentielle trilogie, voire plus. Et on a envie d'en voir plus quand ça se termine. On a envie de voir ce que vont devenir ces personnages. Moi, j'ai trouvé que c'était un film bien foutu et j'ai passé un bon moment, un bon film popcorn à regarder chez soi.
Marilyn conquise, Thierry.
Oui, plutôt.
Ah,
plutôt.
Moi, plus je suis que pas, les Croods.
Je suis pas un... Bon, non, mais si, on compare aux Croods, je parle même de Bergman et de Wells réunis. Non, mais c'est quelqu'un, Douglas Attal, alors qu'on avait connu comme acteur dans Radio Star, qui est passionné par cet univers. Et ça, on le sent. On sent que ce n'est pas le fait du hasard. Et donc, ce que dit Marilyn est exact, c'est qu'on peut donc jouer avec les moyens, mais il y aura toujours la petite étincelle qui fait qu'on se raccroche. On ne fait pas faussement quelque chose. On fait à son niveau, mais voilà. Et moi, j'aime beaucoup aussi les comédiens. Alors moi, je trouve Pio Marmaille, comme toujours, excellent. De faire appel à Vima Laponce, qui est plutôt une comédienne, qui vient du cinéma d'auteur. La plonger là-dedans, je trouve que ça marche très bien face au Poulvord, à Léla Becti. Alors, ce n'est pas le plus grand film de l'année. Moi, j'étais content de voir sur grand écran, quand même. Ça
oui, parce que nous, on l'avait découvert.
Mais il a totalement sa place, vraiment, sur Netflix. Et moi, je trouve, par rapport à l'ensemble de la production Netflix qu'on voit ou des achats Netflix
c'est
qu'on
bien
voit,
du lot,
on est quand même très au-dessus du lot et ça va faire beaucoup de bien à Netflix. Voilà, j'ai été conquis. En tous les cas, il y a un geste d'une sincérité totale. Et ça, déjà, rien que ça, ça mérite d'être applaudi.
Bon, ben voilà, un beau programme. Comment je suis devenu super-héros, c'est donc sur Netflix, les Croods en salle, tout comme Benedetta de Paul Verhoeven qu'on a découvert hier sur La Croisette et Annette de l'Oscarax qui a fait l'ouverture ici à Cannes. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir s'ils sont au palmarès. Qui sait, nous verrons bien. Marilyn Letertre, Madame Figaro, Thierry Chaise de Première, merci beaucoup. Vous allez en soirée, là, ce soir ou...
On travaille. Enfin, certains travaillent, je sais.
Voilà, pour ce club depuis le Festival de Cannes, on s'y retrouvera donc la semaine prochaine, même si nous consacrerons la première partie de notre émission à la sortie de Kaamelott, mais voilà, on trouvera Virginie Efira pour les films de ma vie, nos critiques toujours depuis La Croisette, et puis vous pouvez noter aussi dès maintenant qu'on sera ensemble le soir à partir de 19h pour une émission spéciale pour vous faire vivre la cérémonie de clôture, 19h-20h30, et tout le palmarès que l'on découvrira donc en live, en partenariat avec Canal+. Clap, émission réalisée par Nicolas Baudin, préparée par Marjorie Adelson, que je remercie parce qu'ils sont restés à Paris, n'ont pas eu la chance de venir sur La Croisette. D'ici là, vous retrouvez donc Clap en podcast et rendez-vous samedi prochain 14h-15h sur Europe 1. Europe 1.